Très heureuse d'être avec vous ce matin pour conclure cette thématique. Moi, j'ai trouvé que ça passait quand même vite. Non, pas vous, pas vous, pas vous. Non, quand même. Aussi, si jamais vous avez manqué des messages, vous pouvez les retrouver entièrement sur le site de Nouvelle Vie avec tout le reste de la série. Aujourd'hui, je termine en vous présentant notre dernier impératif de la fin des temps ici dans Charlevoix. On voyait cinq impératifs, cinq attitudes à avoir durant la fin des temps. Donc, voici le dernier. Durant la fin des temps, Jésus nous dit: n'aie pas peur, demeure dans la vérité, prends soin de ton prochain, veille et aujourd'hui, espère. Chaque être humain espère profondément trois choses. C'est ce que j'ai observé dans ma courte vie: la justice, la vie éternelle et l'amour. C'est une quête que tout le monde recherche. Et je crois sincèrement que c'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, un Dieu juste, un Dieu éternel et un Dieu d'amour. Et les gens, vous l'avez bien remarqué, vont essayer par tous les moyens d'assouvir, premièrement, leur soif de justice, vengeance, militarisme pour toutes sortes de causes, sentiment de malaise et de tristesse devant les injustices de ce monde, désir d'un système de justice avec moins de failles, culture de la cancellation, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là, où une personnalité publique va être lynchée sur les réseaux sociaux, détruite complètement, dénoncée, humiliée. Tout ça, c'est les signes de la soif pour une justice. Les gens essaient par tous les moyens aussi d'assouvir leur soif de la vie éternelle. Crème anti-âge, avouez-le, certaines femmes ici. Crème anti-âge, j'en ai vendu une coupe quand j'étais en pharmacie. Chirurgie plastique, acharnement thérapeutique et aussi juste le désir profond de ne pas mourir, de vivre le bonheur. Ecclésiaste 3,11 nous dit: Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'être humain veut vivre. L'être humain n'a pas été créé pour mourir. C'est le péché qui a amené ça. L'être humain veut vivre éternellement. Et finalement, tous les gens essaient de trouver des moyens d'assouvir leur soif d'amour. Relations amoureuses, l'hypersexualité, c'est un désir pour ça. Un besoin profond d'avoir une famille solide. La popularité des comédies romantiques, est-ce qu'il y a des fans de comédies romantiques? Ouais, yes. Nous, quasiment une fois par semaine, on écoute une comédie romantique. T'aimes ça, Julien, avoue. Il aime ça, c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. Les contes de fées aussi, l'obsession d'avoir des likes sur Instagram. Honnêtement, là, c'est pas plus clair, c'est tellement clair de nos jours qu'on cherche à être aimé, on veut être aimé. Et chaque être humain espère au plus profond de lui trouver justice, vie éternelle, amour. La question, c'est donc pas qu'est-ce qu'on espère, mais en qui est-ce qu'on l'espère? Et là, je viens d'énumérer plusieurs façons de le faire, mais Dieu nous dit que c'est seulement en lui qu'on peut trouver ces choses-là. C'est seulement lui qui dit la vérité et qui est digne de confiance. Hébreux 10, 23 nous dit: continuons à reconnaître publiquement notre espérance. On espère. Sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Et espérer, là, c'est pas juste dire: ah, j'espère bien qu'on va avoir ça, j'espère bien qu'on va trouver la justice un jour, j'espère bien. Non, c'est regarder à l'avenir avec confiance. Encore dans Hébreux 11, 1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu nous a promis à la fin des temps un royaume de justice, de vie et d'amour, c'est ça la bonne nouvelle. Et donc, espérons avec assurance que ces choses vont arriver. Pourquoi? Parce que Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance, il tient ses promesses. Amen. Mais attention, OK, la façon que Dieu va instaurer ce royaume dans les derniers jours et répondre aux trois plus grands désirs de l'être humain, aux trois plus grandes espérances de chacun d'entre nous, c'est par le ciel et l'enfer, par le jugement dernier, la dernière étape du plan de Dieu pour l'humanité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous, ça fait longtemps que vous avez entendu un message sur le ciel et l'enfer. Des fois, on dirait qu'on est comme mal à l'aise avec ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je vais essayer de démystifier un peu le ciel et l'enfer, essayer de rendre ça plus concret et aussi qu'on essaie de se dégager des images stéréotypées qu'on s'est créées au fil du temps. Et surtout, je veux te montrer que le ciel et l'enfer répondent à ces trois grandes espérances de l'homme: la justice, la vie éternelle et l'amour. On va prier ensemble. Seigneur, viens par ta parole nous parler, démystifier, Seigneur, apporte-nous ta vérité sur le ciel et l'enfer, qu'on puisse être rempli d'une joie qui vient de toi, Seigneur, une joie surnaturelle pour qu'on puisse anticiper, Seigneur, le ciel, la bonne nouvelle, qu'on puisse être rempli de ta joie, Seigneur, une joie, une espérance, une foi, Seigneur. Viens fortifier, Seigneur, ce matin, ce qui est déjà là. Viens arroser, Seigneur, le tout. On veut grandir dans ta vérité, Seigneur. Amen. Premièrement, dès aujourd'hui, dans les temps de la fin, tu es appelé à espérer la justice, à attendre avec confiance que Dieu fasse justice un jour devant tout le mal qu'on voit dans le monde et aussi devant tout le rejet qu'on voit face à Jésus. Un jour, justice va être faite. Et un des moyens que Dieu utilise pour faire justice, c'est le ciel et l'enfer. Voici ce que Jésus dit à propos du dernier événement qui va avoir lieu à la fin des temps. Okay? C'est ce qu'on appelle le jugement final ou le jugement dernier. Matthieu 25, 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et au verset 46, Jésus dit que d'un côté, les boucs iront à la peine éternelle, donc l'enfer, et de l'autre, les brebis iront, les justes en fait, les brebis vont aller à la vie éternelle, au paradis. En gros, on est tout éternel. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une belle éternité ou pas? Et peut-être que ta vision est un peu cliché de l'enfer, OK, avec du feu, des démons rouges avec des fourches, un peu comme on voit à l'écran. Il y a une peinture qui va apparaître ici. J'espère qu'on va bien voir. En tout cas, vous voyez un peu le topo, là. Ça n'a pas l'air jojo. Mais en fait, cet imaginaire-là vient surtout du Moyen-Âge. En général, ça remonte au grand poète Dante Alighieri, qui est auteur de La Divine Comédie. C'est un poème qui raconte le chemin dans l'au-delà d'un homme qui est mort et qui va passer à travers trois étapes, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et c'était vraiment une œuvre importante à l'époque parce que ça a été la première qui a été écrite non pas en latin, les ouvrages étaient écrits tout en latin, mais le monde ne savait pas lire le latin, ça va bien. Donc, mais là, ça a été écrit en italien, parlé par le peuple. Et c'était donc quelque chose, un document qui a été facile, un poème qui a été facile à publier et à distribuer. Donc, c'était très populaire. Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des peintures à partir de ces textes-là. Et avec une population qui est majoritairement illettrée, en fait, qui ne savait pas lire, les arts vont devenir un moyen pour l'Église de raconter les histoires bibliques, en fait. Parce que les messes étaient dans des langues que les gens comprenaient pas. C'est comme, en tout cas, c'est pratique pour annoncer l'Évangile, mais bon. Mais donc, pour que les gens ne s'endorment pas, sur leur banc d'église, à la place, ils pouvaient commencer à regarder les peintures autour d'eux. Et c'est un peu comme ça qu'ils pouvaient apprendre des histoires bibliques, finalement, parce qu'ils pouvaient pas lire la Bible. Le problème, c'est que si les fresques catholiques, premièrement, représentent une espèce d'image symbolique, ou que même ils utilisent de la littérature qui est hors biblique, ben là, on commence à s'éloigner un peu des données bibliques. Et c'est vraiment à partir de là que ces images-là vont s'ancrer dans l'imaginaire collectif et ça devient vraiment difficile à détruire un peu ce genre d'images-là. Oui, la Bible parle de l'enfer comme d'un endroit où il y a ténèbres, pleurs, grincement de dents, feu ardent, éternel et souffrance. Je l'ai pas écrit à l'écran, là, mais il y a toutes sortes de données qui nous parlent de ça. Ça revient plusieurs fois dans la Bible. Mais la grande majorité des commentateurs bibliques vont dire que le feu, les pleurs, les ténèbres, servent à représenter un lieu où, finalement, il y a la souffrance physique et psychologique. Juste en passant de même, les ténèbres et le feu, comment il peut avoir les ténèbres s'il y a un feu flamboyant? Je veux dire, ça amène de la lumière. Fait que, t'sais, il y a comme des contradictions si on le prend littéralement. Mais on sait que c'est un lieu où les gens sont assouvis au désespoir, à la colère, à l'insatisfaction, à l'amertume, à la peine et au regret, parce qu'il n'y a plus de possibilité de rédemption. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le regret, c'est une des choses que je déteste vivre. C'est vraiment un des sentiments les plus désagréable. Et je l'ai vécu de façon assez frappante à mon retour de voyage. Notre voyage dans l'Ouest canadien avec Julien et moi, j'avais pris des photos avec mon cellulaire. Donc, on n'avait pas apporté d'appareil photo. On prenait des photos avec mon cellulaire, des centaines de photos, vous savez ce que c'est. Et en plus, 10 000 kilomètres en 3 semaines, on envoie des affaires, là. Donc, c'était vraiment un condensé. Donc, plusieurs photos. Et puis, j'avais mon iPad avec moi aussi. Je venais d'avoir un cellulaire. Et donc, nouvelle technologie, les photos que je prends avec mon cellulaire se retrouvent où? Sur mon iPad. C'est merveilleux, mais j'avais besoin de place sur mon iPad. Donc, j'ai supprimé les photos sur mon iPad. Mais tout était beau, j'avais tout ça sur mon cellulaire jusqu'à ce que j'arrive chez moi et que connexion iCloud se fasse. Mise à jour à partir de mon iPad, j'ai perdu toutes mes photos de voyage. Ah, je m'en suis remis, mais sur le coup, honnêtement, tu veux juste retourner en arrière. Le regret, tu t'es dit, la colère que j'ai vécue, tu t'es dit, je voudrais juste revenir en arrière. Je voudrais juste revenir en arrière. Parce que ces photos-là, tu sais, on s'entend, ça se peut qu'on ne retourne pas là-bas. C'est perdu à jamais. J'ai tout essayé aussi. J'ai même appelé Apple. Non, il n'y a pas de possibilité. Mais vraiment, le regret, c'est vraiment désagréable. Je ne peux pas imaginer ce que ça peut être de connaître la vérité sur Jésus. Là, on parle d'une question d'éternité, là. De connaître la vérité sur Jésus, parce que quand Jésus va revenir, on va être mis face à la vérité. Tout le monde va être mis face à la vérité. À quel point ça doit être souffrant de voir, de vivre le regret sans possibilité de revenir en arrière. Je peux même pas imaginer. Il n'y a pas tant de données bibliques pour décrire en détail ce que va être l'enfer, mais une chose est sûre, c'est que tu veux pas être là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Avant de t'expliquer en quoi est-ce que l'enfer est un acte de justice pour Dieu, que ça répond à ce besoin-là de l'homme, je veux te mettre en garde contre deux extrêmes par rapport à l'enfer. D'un côté, il y a la suremphase de l'enfer. Okay? Par le passé, l'Église a mis parfois joué sur l'enfer pour que les gens se convertissent finalement, pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Mais dans aucune situation, la peur est un bon motivateur. Si c'est par peur du châtiment que tu t'approches de Dieu, même Dieu, il n'est pas tant intéressé par ça. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est être en relation avec toi. Et tu ne peux pas être en relation avec lui si tu as peur de lui. Il faut garder ça en tête. Donc, quand on annonce le message de l'Évangile, ce qu'on veut annoncer, c'est Jésus. Ce qu'on veut annoncer, c'est la solution. C'est Jésus qui a justement remporté la victoire sur la mort et sur l'enfer. Au lieu d'utiliser la peur du châtiment. Donc, ça, c'est le premier extrême qu'on veut éviter. L'autre extrême, c'est d'évacuer complètement l'idée de l'enfer de notre message parce que ça nous rend mal à l'aise. Il y a même un film sur Netflix, on va voir l'affiche ici, Dimanche dominical. Je ne comprends pas ce titre-là, c'est un pléonasme, Dimanche dominical. Je la catche pas. Bref, c'est vraiment dimanche, OK? Je pourrais l'appeler de même le sous-titre, vraiment dimanche. Bref, il y a un film sur Netflix qui raconte justement l'histoire vrai d'un pasteur aux États-Unis qui s'est fait rejeter de son église parce que lui, il commençait à prêcher que, en fait, l'enfer n'existait pas. En fait, tout le monde était déjà sauvé par le sacrifice de Jésus. Ça existe, c'est en ce moment-là. Donc, il s'est divisé son église, vraiment, les gens ont dit, voyons, c'est hérétique, c'est pas biblique, tout ça. Donc, maintenant, il y a même son église encore, il y a des gens qui se sont joints à lui, il y a une église aux États-Unis. C'est intéressant, vous pouvez l'écouter si ça vous intéresse. Mais je peux comprendre parce que ça nous rend mal à l'aise, parce que c'est difficile de faire concorder l'idée de Dieu, que Dieu est amour, qu'il est bon avec l'existence de l'enfer. Mais voici pourquoi l'enfer concorde malgré tout avec la bonté de Dieu et sa justice. Voici trois raisons pourquoi l'enfer est juste. Premièrement, l'enfer est juste parce que Dieu offre à chacun ce qu'il désire. Quelqu'un qui n'a rien voulu savoir de Dieu et des valeurs de Dieu et de la communauté de Dieu toute sa vie, ça serait même injuste et pas aimable de le forcer à vivre l'éternité avec lui. Et c'est dire à quel point Dieu respecte la liberté de l'homme. L'enfer est juste parce que ceux qui veulent avec Dieu vont se retrouver avec lui et ceux qui ne veulent pas vont être séparés de lui. Deuxièmement, l'enfer est juste parce que les œuvres de chacun vont être jugées. Si toi aussi ton cœur se tord quand tu entends les injustices de ce monde, quand tu vois les abus de pouvoir, quand tu vois les meurtres, l'esclavage, la torture, sache qu'un jour, chacun va être jugé selon ses actes. Justice sera faite et moi, ça me fait du bien de savoir ça. Ça serait pas juste qu'un violeur qui s'est jamais repenti se retrouve au paradis au même titre que moi, finalement. Et là, tu vas me dire, ouais, mais ma grand-mère a jamais tué personne, le classique. Pourquoi faudrait qu'elle aille en enfer? Peut-être que tu ne savais pas, mais Dieu est aussi juste dans ses punitions et dans ses récompenses. C'est ce qu'on voit dans la parole. Il n'accorde pas à tout le monde la même punition ni la même récompense. On va aller dans les mêmes lieux, l'enfer, le paradis. Mais le châtiment va être différent. Luc 12, 47, 48. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé ni fait en vue de cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment ne sera battu que peu de coups. Bon, c'est pas vraiment joyeux, là, mais l'idée, c'est de comprendre que le châtiment, il y a des châtiments différents. En parlant de ceux qui accueillent ou non ses disciples, Jésus va dire ceci en Matthieu 10, 14, 15. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Okay, il y a donc des degrés de châtiment. Il y a des gens qui ont vécu vraiment des vies qui sont bonnes, mais ils n'ont jamais placé leur foi en Jésus. Ils n'auront pas le même châtiment qu'un meurtrier. Et c'est le cas non seulement pour les punitions, mais aussi pour les récompenses. Okay? Dieu est parfaitement juste. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu, que Christ est le fondement de ta vie? Paul nous dit, fais attention à la façon que tu construis dessus. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc des matériaux précieux et solides, du bois, du foin ou de la paille, des mauvais matériaux, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Les œuvres en matériaux qui sont solides, c'est une image ici, qui sont précieux, vont résister au feu, tandis que le feu, le bois, la paille vont brûler. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Dieu sauve celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Ça, c'est pas un débat. Mais un chrétien peut faire des bonnes œuvres ou vivre une vie un peu avec plus de défis. Leur salut n'est pas remis en question, mais leurs œuvres vont être jugées, par exemple. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, tu ne veux pas être inactif pour Jésus, que tu veux t'amasser des trésors dans le ciel. C'est ça que Jésus veut dire par ça. Que ce soit pour le jugement ou les récompenses, on peut faire confiance à Dieu qu'il va juger exactement de la bonne façon chaque personne. Il est parfaitement juste, parfaitement équitable. C'est pour ça que l'enfer est juste. Troisièmement, l'enfer est juste parce que Dieu donne le moyen d'en sortir. Okay? Donc, oui, l'enfer, c'est épouvantable, mais Dieu a tout fait pour qu'on n'y aille pas. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le moyen est tellement simple pour ne pas aller en enfer. Romains 10, 9 nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. L'enfer, c'est épouvantable, mais le moyen pour pas y aller est si simple et gracieux que personne peut dire que Dieu est injuste. Avez-vous déjà remarqué les nouvelles techniques parentales du genre « Attention, Jérémie! Attention, Jérémie! Trois, deux, je te dis la punition, il va arriver ceci. Attention, trois, deux, un, pour que l'enfant réagisse. Vous avez tous vu ça dans une épicerie, sûrement, j'imagine. Un parent qui essaye cette technique. Et la menace, cette menace-là, là, de la punition, c'est pas ça qui fait un mauvais parent. Parce que le parent, il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour l'enfant. Ce qui ferait un mauvais parent, ce serait de ne pas appliquer la conséquence. Parce que c'est inconsistant, parce que c'est pas digne de ses paroles. Si un parent n'applique pas la conséquence qu'il a annoncée, il n'est pas digne de confiance. Et ce qu'un parent veut, c'est pas donner la punition. C'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que son enfant arrête son comportement mauvais, qu'il demande pardon. Voici ce que dit Dieu dans Ézéchiel 33:11. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? Dieu prend aucun plaisir à la punition et il fait tout en son pouvoir pour qu'on choisisse la vie en lui, mais il nous aime tellement qu'il nous décide de le suivre ou non. C'est fou. C'est une preuve d'amour, en fait. C'est une preuve de sa sainteté. C'est une preuve de sa justice. La Bible nous dit, premièrement, qu'on peut espérer la justice. On sait qu'un jour, justice va être faite. Et deuxièmement, espère la vie éternelle. Deuxième point ce matin. On s'en va dans le plus fun, là. On est passé par l'enfer. Allons vers le paradis. Chaque être humain a envie de vivre. Et si cette personne-là n'a pas envie de vivre, si quelqu'un n'a pas envie de vivre, il a des pensées suicidaires, c'est parce que cette personne-là vit de la souffrance. Mais je vous garantis que 100% des gens, des humains, soupirent après une vie éternelle, bonne et agréable. Et c'est ce que Dieu promet à ses enfants. C'est l'évangile que Christ est venu annoncer sur terre, la bonne nouvelle de son royaume, la vie éternelle sur des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça m'est arrivé quelquefois de parler de ce concept-là, de cette vérité biblique-là avec des amis, et ils n'avaient pas nécessairement hâte d'aller au ciel. C'est comme pas excité, même un peu peur. Ouais, je sais pas, on dirait que, tu sais, bon, c'était pas comme très enthousiaste. Et je crois que c'est parce que l'Église, on dirait qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas souvent du ciel. Ou on en parle d'une façon cliché. Okay? Encore une fois, cette image-là, un peu caricaturale, ça vient du Moyen Âge. Okay? On voit ici une fresque de Michel-Ange. Ça, c'est 13 par 12 mètres. Imaginez à quel point ça doit être magnifique. À la chapelle Sixtine au Vatican. Et ça s'appelle le jugement dernier. Okay? Donc, nuages, ciel. On voit pas très bien, mais vous savez très bien à quoi ça ressemble en gros, là. Nuages, ciel, chérubins, etc. Et pour une référence un peu plus proche de nous, si tu écoutais la télévision dans les années 90, c'est certain que tu as déjà passé sur cette pub-là de fromage Philadelphia. Bon, on voit rien. En tout cas, imaginez-vous le ciel bleu et les nuages. Qui se rappelle de ces pubs-là? Ah bon? Mon fili, là. Mais bon, ça, ouais, sur un nuage de même, mais tu sais, il y a comme rien, tout est vide, ça n'a pas l'air si le fun que ça, puis on va se dire, le Philadelphia, c'est pas si bon que ça. OK? On s'entend? Si c'est ta seule référence au ciel, je vais prier pour toi, écoute ce message attentivement. OK? Et aussi, je suis certaine que la majorité des chrétiens de longue date, vous avez déjà entendu que le ciel, c'était une louange éternelle comme ceci. Ah, avouez, je sais très bien que oui. La musique, 100% du temps, la louange éternelle. Et puisqu'on va être entièrement dans la présence de Dieu, ça va être le dernier point aujourd'hui, c'est vrai qu'on va toujours être dans une louange au ciel. Mais louange, je veux pas dire musique, je veux pas dire une transe vaporeuse de même, là. Non, c'est pas ça la louange. Tout ce qu'on va faire, parce qu'on va le voir, on va faire des choses, tout ce qu'on va faire va être une louange parce qu'on va être dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est à cause de cette image-là du ciel que des fois, ben, on n'a pas trop envie d'y aller finalement, ou ça a l'air plate pour certains chrétiens. Et c'est certain que ça va être difficile pour toi d'espérer la vie éternelle et aussi de l'annoncer comme une bonne nouvelle si justement ça a l'air plate demain. Donc, je vais vous donner quelques données bibliques pour qu'on puisse s'aider à avoir une image biblique, une image réaliste du paradis. Premièrement, il existe deux positions par rapport aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Okay, d'un côté, il y a ceux qui croient que la terre va être complètement détruite et il va y avoir une nouvelle terre et des nouveaux cieux. D'autres vont croire que c'est plus un renouvellement des choses. Donc, Dieu va travailler au renouvellement des choses. Premièrement, ceux qui croient ça, c'est parce que la création, en fait, Dieu a dit que la création était bonne dans la Genèse, que ce qu'il avait créé était bon. Et aussi, dans le déluge, pendant le déluge, Dieu va préserver un reste de l'humanité, etc. Et si on détruit tout, c'est comme si le péché avait eu raison, finalement, de la belle et bonne création de Dieu. Mais d'une façon ou d'une autre, l'important, c'est de saisir que la nouvelle terre va être parfaite, une version améliorée du meilleur qu'on connaît de la terre actuellement. Un endroit sans toutes les choses qui nous font souffrir et un endroit avec toutes les choses qu'on aime le plus, avec toutes les meilleures choses dans le monde. Dans Apocalypse 21:4, Jean parle d'un endroit où il n'y aura plus de larmes, de morts, de deuil, de cris, de douleurs. Plus rien qui soit mauvais, plus de péchés, de blessures, de maladies, de chicanes, de guerres, de dépression, de pauvreté, de soucis. Mais il va y avoir quoi à la place? Il va y avoir la joie, la fête, la louange, la paix, l'amour, la sécurité, la richesse, l'abondance pour l'éternité. Yes! Voici une prophétie d'Isaïe que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien manger. J'aime bien manger. Je suis gourmande, fait que j'aime beaucoup cette prophétie. Lisons-la ensemble. Ça illustre vraiment cette idée paradisiaque. Isaïe 25, 6 à 9. L'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen! Yes! Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ici, je veux souligner quelque chose de vraiment important. Il faut réaliser que le paradis, c'est quelque chose de très concret. Okay? On utilise souvent l'expression « aller au ciel ». Mais en fait, premièrement, c'est plutôt les cieux et la nouvelle terre qui viennent à nous. Et c'est pas juste un ciel. C'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser le mot paradis, parce que c'est pas le ciel, c'est des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est une nouvelle terre aussi. C'est un lieu bien réel. Pas juste des nuages, là, une terre réelle, physique et matérielle. Et puisque le paradis va être concret et matériel, voici deux vérités, non pas sur la fin des temps et toi, mais sur le paradis et toi. Là, on s'en va, on passe les tribulations puis tout ça, puis on s'en va dans l'espérance, dans le paradis, à la fin de notre belle thématique. Premièrement, tu vas avoir un corps. Première vérité, tu vas avoir un corps. Et pas n'importe lequel, le tien, ton corps. Tu vas ressusciter dans ton corps. Tu vas garder tes caractéristiques uniques, ta personnalité, tes traits, mais d'une façon parfaite, pas souillé par le péché. Dieu, il nous a créés tous différemment. C'est pas pour créer après une gang de robots toutes pareilles. Tu vas être toi, mais version améliorée. Et ceux qui ont 5 livres à perdre disent « Amen! » Non, mais pas juste physiquement. Là, toute l'équipe. Ouais, physiquement, j'avoue que je sais pas. On va avoir quel âge aussi. Il y a plein de questions. Là, comme on va pas aller là parce que c'est on sait pas. On sait pas. Mais voici ce qu'on sait. Tu peux être certain de ça parce que le premier-né de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle humanité, c'est Jésus. Et il est ressuscité dans son corps. Il avait les marques de ses blessures. Il était reconnu par ses disciples. C'est fou! Ça veut dire qu'on n'aura pas un lavage de cerveau. C'est important qu'on se rende compte de ça. On va se reconnaître les uns les autres parce qu'ils ont reconnu Jésus. Si Dieu avait voulu des robots, il nous aurait créés comme ça dès le début de l'humanité. Contrairement à certaines philosophies ou religions, Dieu n'a jamais voulu séparer le corps du spirituel. Dieu a toujours valorisé autant le corps que l'esprit dans sa création. Le nirvana va dire que, dans le fond, c'est chez les bouddhistes, c'est l'état ultime que tu veux atteindre parce que tu te détaches complètement, finalement, des choses matérielles, de tes désirs. Mais non, Dieu, il est tellement bon, il veut qu'on ait des désirs qui sont selon lui, puis il veut combler nos désirs. Dieu dit non, toutes les composantes de l'être humain sont appréciables et importantes. L'auteur et théologien Timothy Keller va dire ceci, la citation apparaît. La nouvelle création ne sera donc pas purement immatérielle, mais nous vivrons au sein d'une création palpable et restaurée. Et cela veut dire, comme les chrétiens le comprennent, que le corps et l'âme, le physique et le spirituel seront unis en une parfaite et éternelle harmonie. C'est beau, hein? Et ce qui est fou aussi, c'est que oui, ça va être ton corps, mais attention, un corps transformé quand même, un corps incorruptible, un corps qui ne vieillit pas et toutes les personnes de 60 ans et plus disent Amen. Un corps qui ne se blesse plus. Et on va avoir un corps glorifié. OK, ça c'est cool. Jésus, une fois ressuscité, il pouvait apparaître ou disparaître comme où il voulait, genre il passait à travers les murs et tout, là. C'est que c'est probable parce que l'espace-temps, oh, moi ça me fascine, la physique, là, ça me fait capoter. L'espace-temps va comme prendre une nouvelle dimension. L'éternité, c'est dur là, à comprendre, là. Donc, possiblement que nos corps aussi vont être un peu différents, glorifiés. Donc, tu vas avoir un corps. Deuxième vérité, tu vas faire des choses. OK, ça a l'air banal, mais c'est important. On n'est pas juste de même à manger du Philadelphia. Oublie la pensée que le royaume de Dieu, ça va être ennuyant et complètement déconnecté de ce qu'on connaît, de la belle création qu'on a chantée ce matin, qu'on voit. Faut oublier cette idée-là. Voici un exemple qui souligne à quel point, justement, le paradis risque d'être plus concret qu'on l'a souvent imaginé. Et ce passage-là, c'est ce qui a inspiré la chanson de Julien « Je veux rester ». Qu'on a chanté ce matin. Je vous invite justement à l'écouter cette semaine. Je voyais ma prédication là-dedans. Là. Fait qu'allez le méditer, allez le vivre, ce chant-là, cette semaine. Vous allez le chanter d'une autre façon. Luc 9, 28 à 31. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. C'est le mont de la Transfiguration. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante, un aperçu des cieux. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. D'un côté, on a la gloire de Jésus, la gloire même de Moïse et de Élie. Et là, ils se mettent à parler des anges, de la beauté de Dieu, ils se mettent à louer, ils se mettent à être en transe de façon vaporeuse. Non, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai ri. Il était, OK, imaginez-vous, le monde de la Transfiguration, il y a Jésus, il y a Élie, il y a Moïse. Et là, ils se disent, bon, on va peut-être partir demain matin, peut-être prendre 2, 3 ans avec nous. Je ne sais pas si on va prendre la 20 ou la 40. Je sais pas trop, ça dépend des clans. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. On a comme un aperçu des cieux là, et il parle de choses tellement concrètes, banales à la limite, et connectées à la réalité terrestre. C'est fou, c'est surprenant. Jésus aussi a mangé des poissons, il a fait des choses tellement naturelles, il a rompu du pain, il a eu des conversations dans un langage compréhensible. C'était pas comme une espèce d'ange bizarre ou d'un fantôme. Ouais, un fantôme. Dans le fond, c'est ça qu'on dit quand on revient à la vie, là. C'était pas un fantôme. On veut pas être des fantômes un peu transparents et tout, là. Il a usé de fonctions corporelles normales. On lit aussi que les chrétiens vont boire, manger au festin des noces de l'agneau, que Jésus va boire à nouveau du vin avec ses disciples dans le royaume des cieux. Le paradis, c'est pas jouer de la harpe sur un nuage pour l'éternité. Pour l'éternité, mais c'est prendre l'apéro avec Jésus éternellement. C'est quand même cool comme perspective. Amen. Prendre l'apéro, faire la fête avec Jésus, avec la communauté, avec l'Église. On va manger, on va festoyer, se reposer. Amen. Yeah! Je ne sais pas si on va dormir. Je sais pas. Bonne question. Mais c'est tellement le fun de dormir. Ah, oh, c'est tellement le fun. Mais on va se reposer, ça c'est sûr. On va faire de l'art, construire, voyager, profiter de la vie. Pas juste ici. On aime ça profiter de la vie ici. Ben imaginez, ça va être quoi l'éternité? Il faut qu'on ait une image qui est tellement plus excitante du paradis. Le théologien Wayne Grudem va dire ceci à propos du paradis. Nous pourrions imaginer que la musique et les activités artistiques serviraient à la gloire de Dieu. Peut-être les gens s'appliqueront-ils à étudier et à développer la création par toutes sortes de moyens techniques, créatifs et inventifs, manifestant ainsi toute la richesse de leur création à l'image de Dieu. C'est beau, c'est beau. Ça a l'air le fun pour de vrai. Ça, moi, c'est une perspective qui m'enchante plus qu'un nuage. Et en plus, on peut seulement se l'imaginer. Dites-vous que ça va être infiniment, et c'est le cas de le dire, infiniment plus magnifique et extraordinaire qu'on peut se l'imaginer. La Bible nous dit aussi que nous allons régner au paradis. Apocalypse 22, 5. Ses serviteurs régneront au siècle des siècles. N'oubliez pas que Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Paul dit dans Romains 8, 17, Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En gros, là, on va avoir une fortune à gérer, à faire fructifier pour l'éternité. Et en commençant ce deuxième point, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de regrets au paradis parce que ça, c'est réservé malheureusement à l'enfer. Mais j'aimerais te suggérer que tu n'as pas à avoir de regrets non plus ici sur Terre. J'ai réalisé ça dernièrement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'expression FOMO, Fear of Missing Out? Sûrement quelques-uns, les milléniaux et plus. En fait, ça, l'expression, c'est l'anxiété liée à la peur de rater une nouvelle ou un statut Facebook, une nouvelle importante sur les réseaux sociaux ou surtout un événement social. C'est dû parce que justement, sur les réseaux sociaux, tu vois tes amis faire des événements, aller dans des parties, faire des voyages, puis là, ton cœur se crispe un peu. C'est ça, c'est le FOMO. C'est ça, cette anxiété-là. 56% des gens ont peur de manquer des événements ou des nouvelles importantes sur les gens s'ils sont loin des réseaux. C'est pour ça qu'on est accro. Ça fait ça dans notre cerveau. Chez les milléniaux, les publications qui alimentent ce sentiment de FOMO sont les voyages. Tu vois quelqu'un voyager, 59% des gens sont comme ah. Les fêtes, 56%, et la nourriture, 29%. Si tu as peur de ne pas avoir le temps de faire tous les voyages que tu as envie, d'apprendre à peinturer, d'apprendre un nouveau sport, de profiter des étés qui passent trop vite dans Charlevoix, d'essayer tous les restaurants du guide Michelin, de passer du temps avec ta famille, de t'épanouir dans ton travail, de pas à avoir de regrets parce qu'on va avoir l'éternité pour faire ces bonnes choses-là. Tu n'as pas besoin de vivre la crise de la quarantaine ou le regret d'avoir gaspillé ta vie si tu es un enfant de Dieu parce qu'on va avoir l'éternité devant nous. C'est fou. Il faut que tu te réappropries la joie de la bonne nouvelle du royaume. Il faut que tu l'espères avec anticipation, avec excitation. Avec cette vision-là qui est concrète pour pouvoir le vivre toi-même et pouvoir l'annoncer aussi comme une bonne nouvelle à ta collègue qui est dans la souffrance, à ta belle-mère qui est déprimée ou à ton conjoint qui sent qui a comme l'impression de ne pas avoir assez de temps sur Terre. Et peut-être que c'est toi aussi ce matin, et si tu souffres en ce moment, sache qu'un jour, ça va être derrière toi. Et ce ne sera pas dans si longtemps, hein, parce qu'on ne sait pas c'est quand exactement la fin du monde, mais il y a la fin de toi-même. Hein. On meurt tous. Okay? Donc, dis-toi que pour les plus jeunes d'entre nous, si on a 20 ans, là, maximum dans 80 ans, on rencontre notre Seigneur, puis on va passer l'éternité avec lui. On va avoir l'éternité pour rattraper le temps perdu dans un monde parfait, sans souffrance et sans mal. Amen. Espère la justice, espère la vie éternelle et finalement, espère l'amour. Un des plus grands désirs de l'être humain, c'est d'être aimé et d'aimer aussi à son tour. Et la chose la plus extraordinaire qui va nous arriver au paradis, c'est pas la vie éternelle dans la joie, même si c'est le fun. C'est pas non plus d'avoir un nouveau corps supersonique, même si c'est vraiment cool. La chose la plus extraordinaire au paradis, c'est Dieu lui-même. C'est rencontrer Christ, notre Sauveur et Seigneur glorifié, roi des rois, face à face. La plus belle chose au paradis, c'est d'être dans la présence de Dieu. Pour l'éternité, sans obstacle, sans voile, mais dans toute sa plénitude. Si tu as déjà assisté à soit une soirée de louange, une retraite, quoi que ce soit, vraiment un moment condensé de la présence de Dieu en communauté avec l'Église, tu sais de quoi je parle, à quel point ça fait du bien, à quel point ça vient te rafraîchir. Mais imagine-toi ça, mais fois l'infini. Et ça a toujours été l'intention de Dieu d'habiter parmi sa création, de vivre une relation d'amour avec ses enfants. Suivez bien comment, en finissant, comment Dieu a révélé cette intention tout au long de l'histoire de l'humanité. Genèse 3:8, dans le jardin d'Éden. Après qu'Adam et Ève ont péché, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, Dieu était pleinement avec l'être humain, mais voici que le péché les a séparés. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et alors que le péché de l'homme l'a séparé de Dieu, lui a toujours tendu sa main pour être en relation avec lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de construire un temple pour y habiter. Exode 25:8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quel Dieu d'amour qui veut habiter parmi sa création! C'est fou! Mais le peuple d'Israël, comme vous savez, a échoué parce qu'ils n'ont pas respecté la sainteté de Dieu en suivant ses commandements. Alors Dieu a pourvu un autre moyen, il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Je vais vous lire ce passage magnifique dans Colossiens, qui résume honnêtement, quand je lisais ça, j'étais époustouflée, toutes les pensées du message de ce matin. Colossiens 1, 13 à 23. Suivez bien ce que j'ai souligné, suivez bien toutes les liens à faire pour ce message. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né de la nouvelle humanité. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. C'est donc plus dans un temple que Dieu habite, mais c'est en Christ, en Jésus-Christ, dans son Fils. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. C'est beau, amen. Incroyable œuvre de réconciliation de Jésus pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, chose que Dieu a toujours voulu pour nous. Et c'est pas fini, regardez la dernière étape du plan de Dieu pour être en relation d'amour avec nous. Voici la promesse qui nous est faite, la vision que Jean a eue au paradis de la nouvelle terre dans Apocalypse 21-22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau, ainsi que Jésus. C'est lui, le temple. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Un jour, on sera pleinement dans la présence de Dieu, dans une relation parfaite avec lui. C'est là qu'on va connaître pleinement l'amour, parce que Dieu, il est l'amour. Il est l'amour. On va aimer pleinement Dieu et il va nous aimer pleinement. Les musiciens, vous pouvez venir. Peut-être que ce matin, tu es en quête d'amour, que par le passé, tu as été blessé par des gens ou que tu n'as pas reçu l'amour que tu aurais espéré de tes parents. Ou tu t'es fait trop d'attentes peut-être par rapport à une relation, soit d'amitié ou un conjoint, une conjointe. Tu pensais que ton mariage ou cette amitié-là allait combler ton cœur. Blaise Pascal a dit ceci. Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont tout incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Il y a juste Dieu qui peut combler ton cœur de l'amour dont tu as réellement besoin. Parce qu'il nous a créés pour être en relation avec lui. On est ses créatures. Et c'est pas tout, hein? Le royaume de Dieu, c'est une communauté. Une communauté, c'est l'Église. C'est une communauté qui est gouvernée par deux seuls petits commandements. Matthieu 22, 37-39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici quelle va être l'essence du paradis, de la nouvelle humanité. Un royaume gouverné par l'amour. Un royaume gouverné par l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut commencer dès maintenant, comme par le chant qu'on a vu, Je veux rester. On peut commencer à expérimenter l'amour de Dieu dès maintenant, dans la prière, la louange, dans les lectures de la parole, dans la Bible, la communauté. On peut expérimenter cet amour-là qui nous unit. Et aussi, ce qui est très important, c'est que tu peux vivre selon les standards de cet amour, dès aujourd'hui. En fait, tu peux vivre, Jésus nous commande même de vivre selon ces standards de ce royaume, de ces deux prescriptions. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu peux maintenant vivre le ciel sur la terre. Tu peux commencer. On est appelé à commencer à être des citoyens du royaume de Dieu dès aujourd'hui parce que c'est là notre vraie demeure. On est ici en attendant. On doit essayer de vivre comme Christ a vécu avec son aide. En aimant notre prochain, en étant généreux envers les pauvres, en écoutant les gens qui souffrent physiquement, psychologiquement, en ayant compassion de l'immigrant, en étant la lumière du monde, en vivant comme notre vrai royaume finalement. Et alors que tout au long de la série, Julien et moi, on présentait des événements qui vont avoir lieu dans la fin des temps, qui étaient plutôt dramatiques, antichrist, etc. Ben, toi, c'est ça la série, c'est la fin des temps et moi. Toi, vis selon le royaume d'amour instauré par Jésus, en attendant sa pleine révélation lors de son retour. C'est un peu comme Noël. On commence. On fait pas Noël juste le 24, dans un sens. Okay? On commence à faire nos décorations de Noël. En tout cas, moi, j'ai déjà commencé à placer mes décorations de Noël. On commence tranquillement à faire des petites fêtes de Noël par-ci, par-là, au travail, etc. On décore, on commence à écouter des films de Noël parce que sinon, ça passe vite, là. Une journée, le 24, on s'entend. On écoute des films de Noël, de la musique de Noël, etc. On commence finalement à fêter Noël un mois en avance. Okay? C'est la même chose. Il faut se mettre dans l'ambiance du royaume dès aujourd'hui. Il faut espérer, il faut penser au ciel, au paradis, à ce qui nous attend et à vivre comme tel aujourd'hui. Commence à fêter Noël dès maintenant. Commence à fêter le paradis dès maintenant. Vis selon ce royaume dès maintenant. Et annonce-le, le ciel et l'enfer, c'est la réponse à la quête éternelle de l'être humain, la quête de la justice, de la vie éternelle et de l'amour. j'ai deux invitations. Premièrement, réapproprie-toi cette réalité-là, plus concrète, plus excitante. Réapproprie-toi la réalité du ciel pour toi-même, pour le vivre dès aujourd'hui. Et aussi pour l'annoncer comme quelque chose de le fun. Les chrétiens, on est censés être les personnes les plus joyeuses au monde. On est censés être contents d'être sur Terre, de déjà commencer à profiter de la vie. Et on est censés avoir une espérance de joie, de feu là, extrême pour ce qui s'en vient pour la suite. Ma deuxième invitation, si tu es ici ou que tu écoutes cet enregistrement, confesse de ta bouche que tu crois en Jésus pour avoir la vie éternelle, te retrouver dans sa présence pour l'éternité et commencer dès aujourd'hui à vivre une vie d'amour pour avoir accès au paradis et non pas à l'enfer. Pour avoir accès au paradis, c'est seulement de croire en Jésus, en fait. Seulement placer notre foi en Jésus, c'est incroyable. Et en ces paroles qui viennent d'être prêchées,